Bonjour Berino, bonjour Isabelle Pommel et bonjour Catherine Putz. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté cette rencontre pour nous parler de la TPA. Et je vais me tourner directement vers vous, Monsieur l'abbé Rino, pour vous demander, en tant que directeur, de vous présenter et ensuite si vous pourriez présenter la TPA.
Bonjour Sylvie et bonjour à tous. Je suis prêtre depuis bientôt 20 ans, j'ai 44 ans et je travaille dans le diocèse de Bayonne depuis bientôt 7 ans et notamment justement au service de l'ATP, alors qui n'est pas seulement au service du diocèse de Bayonne mais aussi au service du diocèse de Dax. D'ailleurs, il y a aussi des personnes d'autres diocèses qui peuvent en profiter, mais c'est les deux diocèses qui ont uni leurs forces pour mettre au point ce parcours de formation qu'on appelle donc la TPA. Alors, un parcours de formation essentiellement pour des personnes qui souhaitent approfondir leur foi, en fait. Les gens qui toquent à la porte de la TPA sont des gens qui veulent inventorier, découvrir davantage ce en quoi ils croient, en quoi consiste la foi chrétienne et avancer dans ce sens. Et c'est un parcours qui permet à ceux qui le souhaitent d'obtenir aussi des diplômes, s'ils souhaitent aller jusque-là. Plusieurs diplômes, dont le plus élevé est celui de baccalauréat canonique en théologie, comme on dit, qu'on appelle nous le diplôme de licence, mais bon, il y a toute une série d'étapes qui permettent de s'y préparer, et puis on va plus ou moins loin dans cette formation, et surtout on y va à son rythme. La TPA, c'est un parcours de formation d'approfondissement de la foi qui a été conçu pour que les personnes puissent le suivre, d'abord tout en tenant compte de leurs obligations et familiales et professionnelles, et d'autre part aussi de manière souple et adaptée. Qu'on puisse faire tel cours ou telle série de cours telle année, puis on attend un petit peu pour faire les autres parce que pour le moment on n'est pas encore prêt. Donc chacun va à son rythme, mais avec un vrai sérieux dans l'étude de l'accompagnement. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur mon parcours personnel. Alors peut-être que ça ne vous suffira pas et que vous voudrez poser des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Et voilà ce que je peux dire sur la TPA pour présenter brièvement.
Oui, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous vous êtes décidé ou comment vous avez été appelé à être directeur de la TPA ?
Alors en fait, la TPA, c'est un organisme qui a déjà une longue histoire, pratiquement 20 ans. Donc il a été fondé en 2001 par une équipe de prêtres et de laïcs, avec le soutien donc des évêques de Dax et de Bayonne, et puis aussi en partenariat avec l'Institut catholique de Toulouse. Moi, j'arrive bien après cette histoire-là. Donc, plusieurs directeurs se sont succédés depuis. D'abord, l'abbé Michel Garat, ensuite l'abbé Jean-René Prédaigne, ensuite l'abbé Biche brièvement, Madame Pommel qui est parmi nous, qui est restée longtemps directrice de la TPA, puis moi, je suis arrivé en 2018-2019. Et j'y suis arrivé parce que mon évêque m'a proposé de prendre la suite d'Isabelle Pommel. Moi, j'ai un parcours universitaire, j'ai un diplôme, donc ça, c'est des choses qui peuvent permettre ce genre de travail. Donc c'est comme ça, moi, que je suis arrivé à la TPA. Mais en fait, avant, c'est vrai que maintenant que j'y repense, avant, j'avais été sollicité pour donner des cours. Donc c'est comme ça que je suis tombé dans la TPA. Je dois dire que je me suis un petit peu pris au jeu, j'ai apprécié cette ambiance, et puis ces gens venant un petit peu de tous les horizons et se passionnant pour des matières qui moi-même me passionnaient aussi. Et donc c'était très stimulant. J'ai commencé par l'enseignement, je ne me souviens plus quelle année je suis arrivé pour enseigner. C'était en fin d'année, je me souviens, fallait que je remplace un professeur qui... Et donc on m'a demandé si je pouvais le faire, je l'ai fait très volontiers. Et j'ai commencé comme ça. Et au bout d'un certain temps, mon évêque m'a demandé si j'acceptais, qu'éventuellement. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, c'est comme ça que je continue aussi à enseigner. C'est avec toujours beaucoup de joie, ce plaisir-là continue aujourd'hui. Ouais.
Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur cet habit vert qui m'intrigue tant, s'il vous plaît ?
Alors, moi, je porte un habit parce que j'appartiens à une communauté de fondation récente, où nous sommes, qui est placée sous le patronage de Saint Thomas Becket, qui est un grand évêque du XIIe siècle, qui a comme particularité d'avoir perdu la vie par amour de son troupeau. On parlait tout à l'heure du troupeau du Christ. Il a été dévoué au bien de ceux qui lui avaient été confiés au point qu'il a perdu la vie. Et puis, en fait, il a tout perdu par amour de son troupeau, par amour de sa mission. Et c'est ça qu'en fait une figure aussi attachante. Quand j'ai rejoint ce groupe de jeunes autour d'un prêtre qui cherchait à vivre un peu une mission au service des jeunes en particulier, eh bien, on a choisi ce patronage de ce Saint-Évêque. On a aussi choisi, nous, d'avoir un habit qui nous spécifique, qui nous distingue en quelque sorte, hein, qui est un habit de couleur verte. Alors, il se trouve qu'on n'a pas prévu à l'époque, hein, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est très en vogue. Donc, le vert, c'est la couleur de l'espérance, hein, comme si vous connaissez un peu le code des couleurs. Enfin, moi, je suis profondément convaincu que nous avons tous énormément besoin d'espérance. Je crois qu'une vie, elle se poursuit, elle se déroule sur le fond d'une espérance, d'une attente, d'un... Voilà, on cherche quelque chose de mieux. Benoît XVI a écrit une très belle encyclique là-dessus, sur l'espérance, parce que c'est vraiment fondamental. Pas seulement dans la vie du chrétien, hein, c'est dans la vie humaine. Mais c'est vrai que la foi chrétienne donne une espérance, hein, une foi qui est une espérance en même temps. On essaie d'être porteur de ça. Voilà.
Mesdames Pommel et Poutz, donc vous êtes directrice de cycles. Ces cycles, à quoi ils correspondent ?
Alors les cycles, il y en a deux. Il y a le cycle, c'est facile à comprendre, il y a le cycle d'initiation et le cycle d'approfondissement. Et on voit bien comment ces deux cycles s'articulent dans une progression continue. L'intérêt au point de départ, c'est de voir ce qui amène à faire le saut. Pourquoi est-ce qu'on s'inscrit dans ce type de formation qui, d'une certaine façon, ne donne ni de débouchés, ni de qualification professionnelle, prend du temps, est souvent pris comme une chose un peu bizarre. Et c'est très intéressant de savoir que tout le monde n'en parle pas dans sa famille. Et bien, comment est-ce qu'on se lance là-dedans ? Donc, il faut des vraies, vraies motivations. Ça, je pourrais en parler un petit peu. Et puis après, donc, il y a ce premier cycle. Et puis, quand on a fait le pas, c'est tellement intéressant. C'est tellement prenant et on s'aperçoit qu'il y a tellement, tellement de choses à approfondir qu'on se prend au jeu et qu'on rentre dans le cycle d'approfondissement.
Alors le cycle d'approfondissement, c'est un cycle qui dure sur 6 ans, enfin qui s'étale sur 6 années, parce que comme toutes les personnes qui se lancent dans cette formation ont un métier, de la famille, tout, donc on ne peut pas faire une formation à plein temps, hein, donc, sur 6 années, progressivement, on avance, hein, il y a les portes qui s'ouvrent, ou bien les questions qui continuent à s'amonceler, on va de question en question, c'est ça qui... un cheminement qui n'est jamais terminé, c'est ça qui est merveilleux d'ailleurs, c'est que... Puis on est pris au jeu aussi, on a vraiment envie de continuer, d'approfondir, d'aller plus loin. C'est à la fois plus profond, plus loin, plus haut, enfin c'est dans toutes les directions.
Moi, je m'adresse plutôt aux personnes qui se lancent, alors que Isabelle, c'est davantage des personnes qui connaissent et qui approfondissent. Mais ce qu'on a sans doute en commun, c'est d'abord d'essayer de comprendre quelle est la motivation des personnes, de pouvoir quelquefois leur faire mieux prendre conscience de ce qu'elles-mêmes portent, souvent comme un désir très profond, mais qu'elle formule davantage. Et puis, il y a aussi être présent le jour où c'est long, c'est difficile. On s'aperçoit que concilier ça avec toutes ses obligations, c'est pas toujours simple. Que ça peut faire appel à des compétences qui datent de certaines années, de quelquefois de très longues années, et leur dire « mais oui, mais si, mais c'est quand même possible ». Et une des choses magnifiques, outre le contenu de tout ce qu'on peut acquérir, c'est de voir comment des personnes se découvrent elles-mêmes et comment elles qui, quelquefois, arrivent en se disant « mais qu'est-ce que c'est que ce gros mot dentelle de théologie ?» comment ces personnes, confrontées à une difficulté, mais aussi à une sorte de défi et poussées par leur désir, arrivent à prendre conscience de ce qu'elles valent et de ce qu'elles sont capables de faire. Et je vous assure que c'est merveilleux de voir comment des personnes arrivent à mener à bien quelque chose dont, au départ, elles pensaient qu'elles ne seraient jamais capables.
Voilà, c'est tout le travail de tutorat, effectivement, qui est important. On peut presque dire que chaque personne qui se lance, chaque étudiant... D'ailleurs, ça fait plaisir à tout le monde de redevenir étudiant. Je ne connais personne qui se dit « oh, non, finalement, en souriant, en s'inscrivant, et ils en sont très contents ». Chacun a une voie presque unique. Enfin, c'est très, très souple, Il y en a d'ailleurs quelquefois qui en ont tellement assez, ils arrêtent pendant 2-3 ans, et puis ils reviennent. Donc ce qu'ils ont fait les années précédentes est toujours, bien sûr, est toujours gardé, mais il y a eu ce cheminement aussi pendant les 3 ou 4 années où ils ont arrêté. Et ils continuent après, ils reprennent. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un cheminement dans la durée, et on a la chance de pouvoir être très souple.
J'aimerais savoir si vous aviez une fourchette d'âge. Est-ce que vous avez souvenance de l'âge du plus jeune ou de la plus jeune?
20 ans, 21
oui,
ans.
20 ans. Et du plus âgé ou de la plus âgée?
90, 12. Elle a eu sa licence en théologie, elle avait 88 ou 89 ans, vous voyez.
Et elle reste.
Ah mais non seulement ça, mais ça lui a donné un tonus, un dynamisme. Et puis ceux qui ont, ce qui est très drôle, c'est ceux qui ont 70 ans, bon, eh bien, les examens, ils arrivent en riant, en disant « j'ai la trouille, j'ai peur ». Parce que ce ne sont pas les parents, c'est les petits-enfants qui veulent savoir les résultats.
Ouais, c'est vrai.
Vous voyez, ça permet de retrouver des émotions du jeune temps. Et finalement, je me dis que c'est merveilleux si la théologie nous permet renouer avec ces...
Et finalement, de bousculer les rôles de chacun.
Et puis qui sont heureux.
Sont très contents.
Et qui sont heureux de revivre ça.
Et leurs enfants.
Et on en rit tous quand même. Il y a beaucoup.
Oui,
alors là,
il
y a une chose quand même, depuis le début où existe la TPA, c'est la fraternité, c'est l'entraide, c'est la découverte de personnes très diverses. Il y a des personnes mais qui n'auraient jamais pensé. Enfin, ce côté, et vraiment, il y a des liens. Hein. Vous qui êtes arrivés, on vit une vraie fraternité.
Une vraie fraternité, et puis c'est vrai aussi hein, une forme d'enthousiasme, d'appétit dans la découverte de ce monde qui est à la fois un petit peu inconnu, parce que bon, les gens qui viennent connaissent, voilà, ils sont attachés à la foi, et en même temps découvrent des auteurs, des thématiques aussi, donc parfois ils s'imaginaient pas que l'Église avait tant de choses à dire sur des sujets qui touchent à leur vie quotidienne. Ça peut être sur le monde du travail, ça peut être sur le monde de l'écologie, ça peut être, enfin, tant de dimensions. Et aussi, quand on fait des matières qui touchent à l'histoire de l'Église, je pense qu'Isabelle, ici, donne un cours de patristique, donc qui porte sur des évêques qui ont écrit sur la foi au 4e siècle, au 3e siècle, ça peut nous paraître lointain. Et en fait, quand on regarde la vie de ces gens-là, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont enseigné, c'est riche d'enseignements pour nous aujourd'hui. Leurs vies sont inspirantes, mais leurs écrits nous touchent encore. Alors, pour peu qu'il faut savoir les présenter, etc., mais c'est justement le travail du professeur que de sensibiliser les gens à ça, leur donner accès à cette nourriture-là. Donc, oui, une forme de fraternité, puis cet enthousiasme, cet appétit qui fait qu'en fait, il y a des pauses, évidemment. Hein, des pauses où on se retrouve, ne serait-ce que pour manger, d'abord, premièrement, et puis prendre un café. Et bien souvent, pendant la pause, on continue à échanger. Alors, ceux qui échangent sur autre chose, ils sont sur autre chose, mais c'est pas rare qu'on continue à échanger sur le contenu de ce qui a été dit auparavant, parce qu'il y a encore du grain à moudre, quoi. Ouais.
Et on s'aperçoit malgré tout que en s'engageant, on a l'impression de tout savoir, de tout connaître, et on se trouve devant un inconnu faramineux où à chaque fois qu'on se nourrit un peu, on se dit « mais mon Dieu, c'est un abîme qui m'attend, c'est comme je ne sais rien, mais comme je ne sais rien !»
Puis non seulement ça, quelquefois il y a des choses qui nous semblaient essentielles dans la foi, on se rend compte que c'est secondaire, hein. Et vice-versa. C'est pour ça aussi que c'est important d'être accompagné, parce que ça déstabilise beaucoup. Hein. Dans notre foi, on est obligé de faire des pas, de se désinstaller là où on ne pensait pas. Et là, l'accompagnement est vraiment important, parce que c'est vrai, il faut reconnaître, c'est déstabilisant de faire ces études. Il faut accepter d'être déstabilisé, tout le monde. Et là aussi, bon, comme on est passé par là, tous, les formateurs, les enseignants, donc on le sait très bien, donc on ne veut surtout pas bousculer les personnes. Ah, si, il y a une chose que je voulais dire aussi, qui est importante, je pense, c'est le respect les uns des autres. Vous voyez, à la TPA, il y a, on peut dire, toutes les sensibilités que l'on peut trouver dans l'Église. Hein, de gauche à droite, toutes. Et voilà. Mais on se respecte tous. Chacun peut dire ce qu'il pense, il sait qu'il ne sera pas jugé. et on s'écoute mutuellement. Donc il y a aussi une vraie, un vrai apprentissage, je crois, de l'écoute, du respect mutuel les uns des autres. Ça, c'est quelque chose, il me semble, d'important.
Oui, tout à fait. Moi qui suis engagée dans la TPA, c'est vrai que j'ai trouvé toutes ces valeurs systématiquement, sans oser baisser le regard parce que je n'étais pas à la hauteur. Et ça c'est quelque chose de fabuleux. Parce qu'on peut marcher sans regarder le tapis, sans regarder ses pieds, et avancer sûr de soi dans son ignorance, en fait. Pas dans le fait qu'on soit ignorant, donc on en est fier, c'est surtout dans le fait que, même ignorant, qu'est-ce que ça peut faire, puisque je peux avancer.
Oui. Mais parce que l'on découvre que la théologie... Il y a des connaissances, mais ce n'est absolument pas l'essentiel. C'est une question de vie.
C'est ça.
Et malheureusement, il y a quand même des a priori sur la théologie où on pense que c'est athélo, que ça va être une prise de tête. Or, il y a un petit peu, c'est vrai, il y a des efforts automatiquement. Hein. Mais malgré tout, ça touche à notre vie, à la vie. C'est ça qui est...
Tout à fait. Et quand tu disais tout à l'heure que c'était déstabilisant, je me dis aussi, mais de toute façon, notre vie d'humain ne peut pas progresser sans cette déstabilisation, puisqu'on est dans une marche. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus déstabilisé que la marche? À partir du moment où on est stable sur ses jambes, on ne peut pas avancer. C'est à partir du moment où on se remet à se déstabiliser qu'on avance.
C'est pour ça aussi que c'est peut-être, je pense, important pour nous de continuer à faire cette proposition de la TPA, parce que de toute façon, la situation aujourd'hui, dans notre société, on est déstabilisé. Ça permet peut-être de, ensemble, on essaye de comprendre, au moins de se poser des questions, de comprendre, de chercher des pistes pour pouvoir avoir des réponses pour nous-mêmes et puis pour nos proches. Hein. Très souvent, les personnes s'inscrivent à la TPA, soit parce que dans leur famille, ils ne sont pas compris, ou bien ils ont des personnes qu'ils aiment qui refusent la foi et qui agressent, qui posent des questions un peu agressives sur la foi, soit dans le travail aussi. Ils se disent, non, c'est pas possible, il faut que je... ça les blesse profondément et ils ont envie de pouvoir... au moins écouter ces questions sans être trop blessé et esquisser des réponses ou des pistes. Hein, c'est...
Oui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut amener des personnes à se lancer dans ce type d'études? Et il y a certainement aussi une chose, alors, qui est soit je suis engagée, par exemple, dans l'Église et je suis confrontée à des questions, je ne sais pas trop comment répondre, donc j'aimerais avoir un bagage supplémentaire, soit dans la famille ou au travail, alors ça, c'est ce que tu as dit. Et puis, d'une façon plus générale, des personnes qui disent « mais j'ai fait des tas d'études dans mon domaine professionnel ou dans mon domaine grec, et pendant ce temps-là, j'en suis encore au caté pour ma foi ». Qui ont un vrai besoin de rééquilibrage et qui se rendent compte que il y a un besoin, eux-mêmes sont finalement insatisfaits de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils ne savent pas. Il y a aussi toute cette dimension-là. Et alors, il y a un autre éclairage qui me paraît très intéressant et que je vois par les langues. Parce que tous, quand même, enfin, la plupart du temps, quand on s'inscrit à la TPA, on a lu au moins une partie des évangiles, ou au moins on a entendu ça connu fastoche. Et puis, quand on se met à faire une langue biblique, on dit « Ah, mais je croyais que je connaissais ce texte, mais finalement, je n'avais rien compris ». Et donc, il y a un vrai, on se rend compte qu'il y a, des moyens d'approfondir et de redécouvrir des textes qui sont lus dans la liturgie, qui nous font vivre, qui sont des références, et on rejoint ce que tu disais, mais qu'on découvre d'une nouvelle façon. Et quand en plus, ça sortit d'un dialogue ou d'un échange avec d'autres étudiants, voire avec des sensibilités différentes, on est à la fois déstabilisé, mais beaucoup plus riche au bout du compte. Quand même une chose, je crois, qui compte beaucoup, c'est que c'est en arrière-fond, il y a une certaine conception d'église. Qui d'entre nous ne marche pas quand même avec un petit peu, je ne veux pas du tout faire de choses polémiques, hein, mais il y en a qui savent, c'est les prêtres. Puis nous, on écoute, puisqu'on est des moutons. on voit que non, on est tous, nous sommes des baptisés. Et que c'est une vraie responsabilité que nous avons tous, que nous partageons tous, avec des itinéraires différents. Mais je crois que derrière, il y a une vraie conception de l'Église, qui est, vous êtes tous responsables de votre foi, et vous êtes tous appelés à pouvoir en rendre compte, avec discrétion, certes, mais vous êtes tous appelés à rendre compte de votre foi.
C'est l'idée que, comme mouton brebis, hein, nous sommes tous des brebis de l'unique troupeau du Christ, hein, et qu'on se met tous, voilà, qu'on soit prêtre ou baptisé, d'ailleurs on est tous baptisés, on se met tous à l'écoute de l'unique pasteur, et à la TPA, qui dépend de l'Institut catholique de Toulouse, on est tous à l'écoute de la parole de Dieu telle qu'elle se donne dans l'Écriture, d'où l'importance de travailler les langues bibliques pour ceux qui le souhaitent, mais ils se passionnent assez facilement, hein, pour les
grecs
et
les hébreux. C'est une particularité de la TPA, ouais. C'est que, je ne sais pas si c'est l'air des Landes, du Pays Basque ou du Béarn, mais les gens, les personnes ont envie de faire les langues bibliques, et ça étonne les personnes de Toulouse, parce que le souffle doit être un peu différent.
C'est l'air
malin,
ça.
Exactement, qui voilà. Stimule à...
Voilà, donc on essaye de tout faire pour qu'il y ait le maximum de groupes.
Ouais, ça donne donc une écoute de la parole de Dieu, on redécouvre les langues bibliques, dont on découvre le sens profond à l'école des pères de l'Église. Hein, donc il y a des cours qui tournent autour de la Bible, mais il y a des cours qui tournent aussi de l'enseignement de ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire ces grands connaisseurs de la Bible qui en ont saisi le sens profond et donc auxquels on a accès à travers leurs œuvres, mais aussi leur vie, hein, parce que les deux sont indissociables souvent chez eux. Et puis l'enseignement du magistère de l'Église, bien sûr, hein, la TPA, on fait de la théologie en union avec toute l'Église catholique. Donc voilà, on se met à l'école de cette parole de Dieu sous cette triple facette-là. Et c'est ça qui fait l'unité, finalement.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu sur ces langues bibliques ?
Alors, c'est l'hébreu et le grec, c'est-à-dire les langues dans lesquelles, en gros, hein, la Bible a été écrite. Ancien Testament en hébreu, Nouveau Testament en grec. C'est très grosso modo, enfin, c'est quand même un peu ça. C'est pas du latin. Le latin pourrait avoir sa place. On n'est rien contre le latin, surtout qu'il y a quand même toute une tradition autour du latin d'église. Le latin est une langue d'église. Et le grec biblique, qui n'est pas tout à fait le grec classique, mais ça, on rentre dans des détails. Si on a fait du grec classique, on est prêt pour le grec biblique.
La TPA, c'est aussi une formation spirituelle, diriez-vous. Alors, qu'est-ce qui la différencie des autres formations spirituelles ?
Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une formation spirituelle. On dit que c'est une formation qui touche à la personne, qui nous fait vivre. Et il y a des cours, d'ailleurs, de spiritualité. Oui. Il y a des cours de spiritualité. Mais le mode qui est retenu, c'est le mode de l'enseignement universitaire. C'est-à-dire que, par exemple, on apprend à travailler un texte de façon rationnelle, systématique, et à en rendre compte, ce qui, évidemment, ne s'oppose pas à une méditation spirituelle à partir d'un texte, mais une méditation spirituelle, c'est autre chose, c'est pas ce qui est demandé dans le cadre de la TPA. Les deux sont légitimes, les deux se complètent, mais à la TPA, c'est rendre compte de façon rationnelle.
Mais je rebondis sur ce que dit Catherine, c'est très important. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas un impact spirituel. Quand on approfondit sa foi grâce à la TPA, ça nourrit, une bonne théologie nourrit la vie spirituelle. Alors, quand on découvre la parole de Dieu, comme disait Catherine tout à l'heure, on travaille le grec un petit peu, donc du coup, on saisit mieux le sens profond des textes. Bon, c'est un émerveillement, et ça ne peut pas ne pas retentir sur notre relation à Dieu. Mais c'est vrai que c'est par surcroît, voilà. C'est par surcroît que ce phénomène se produit, c'est tout à fait naturel, hein, une théologie normale produit, fait ce genre d'effet. Mais c'est à travers un parcours de réflexion, vraiment. Apprendre à mieux connaître
et mieux comprendre. Et la spiritualité ou une méditation reste, je veux dire que ça, bien sûr, et a, son autonomie et toute sa légitimité, toute sa place dans la vie. Mais sachons ce qu'on peut attendre à la TPA et ce qu'il peut y avoir ailleurs en complément. C'est juste un petit éclaircissement.
On va peut-être essayer d'aborder un côté un peu plus pratique, puisque cette émission est faite pour vous donner goût.
Alors, pour avoir plus de renseignements sur la TPA, on peut bien sûr prendre contact par téléphone avec le secrétariat de la TPA au 05 59 58 47 40. 05 59 58 47 40. Se connecter au site de la TPA, atpa-theologie.com. On peut d'ailleurs, par ce biais-là, consulter le livret de la TPA qui a été mis tout frais pour toute l'année 2020-2021, et un petit peu naviguer, voir un petit peu toutes les formations qui sont proposées l'an prochain, sachant que certaines activités sont prévues qui sont ouvertes largement à l'extérieur. On prépare une petite session de 2 jours sur le thème de l'écologie intégrale en lien avec ce que nous venons de vivre là, justement, hein, avec cette épidémie. Enfin, ce que nous venons de vivre, on est encore un petit peu dedans. Et donc, cette session sera donnée au mois de janvier, 23-24 janvier, je crois, si je ne me trompe pas, 2021. Et puis aussi un cours de 2 jours, hein, qui se succède, un cours de 2 jours sur Edith Stein au mois d'avril, hein, 2021. Edith Stein, ça résume bien tout ce qu'on a dit, hein, une personnalité qui a vécu profondément de sa foi, qui l'a beaucoup travaillé, qui a beaucoup réfléchi, mais qui l'a vécu de manière exemplaire, quoi, hein, une figure très attachante. Donc, faut pas hésiter à venir faire un petit tour. Il y a aussi notre conférence de rentrée à 10h30 dernier samedi de septembre 2020. Une conférence de rentrée à 10h30 à la Maison diocésaine de Bayonne qui sera consacrée au thème de la différence sexuelle. Le livret détaillé du programme des cours sera aussi mis à disposition à la sortie des églises. Voilà, c'est quelque chose qu'on répand largement et qui c'est pas difficile de se le procurer dans les églises des Landes ou dans les églises du diocèse de Bayonne.
Hein, auprès du service de formation diocésaine des Landes, hein, au centre Jean-Paul II, y sera.
Le centre Jean-Paul II en diffuse aussi aux paroisses.
Oui.
Et dans les paroisses, on peut aller en trouver aussi.
Tout à fait, oui. À la rentrée, tous les auditeurs vont être un certain nombre vont venir s'inscrire à la TPA.
Ils sont les bienvenus.
Pas tous. Hein.
En fait, c'est un rendez-vous.
Voilà. Ce sera avec joie que nous vous accueillerons.
Je vous remercie beaucoup.
Merci, Sylvie.
À la rentrée. Sylvie, oui, comptez sur toi.
Merci beaucoup.